Cascodeur Podcast, épisode 267. La gomme efface sa dette technique. Enregistré le 12 novembre 2021.
Si vous voulez soutenir un petit peu les cascodeurs, allez sur patreon.com/lescascodeurs et merci à vous. Bonjour et bienvenue au Cascodeur, nous sommes...
Bah, le 12 mais... novembre, voyons, c'était après le 11.
Oui.
Le 12, c'est après le 11, toujours.
Ouais, puis il me restait des RTT, donc là je suis en RTT. Mais je travaille pour vous, mes chers
Ah, t'es en RTT, tu travailles.
Eh ouais.
Waouh.
Mais ça, tu connais pas, toi.
Non.
On en dette, la notion de RTT. c'est l'épisode 267, c'est des news. Voilà, il y en a quelques-unes.
Et ouais,
puis Antonio est avec moi, comme vous avez pu entendre.
Bonjour, mesdames et messieurs. Tout à fait.
Eh bien, c'est parti.
Je fais les articles faciles et puis toi, tu fais les articles complexes, ok? Ça te va?
Si tu veux. J'ai pas vraiment relu les notes, donc il va peut-être y avoir des petites hésitations de temps en temps. Je les ai préparées en début de semaine, mais le temps passe très vite. Donc voilà. Alors, nous allons commencer par les news assez bas niveau, donc au niveau de la plateforme, notamment la plateforme Java. Et puis, il y a Gunnar Morling qui travaille sur Dibizium, qui a fait un blog et qui aime bien tout ce qui est nouveauté, Java, etc. Et donc, a fait un blog sur les extraits de code dans les Java docs.
On en avait parlé, je crois que c'était le mois dernier ou il y a deux mois déjà, ouais. La JEP 413.
Ouais.
Code snippet.
Parle-en un peu, ouais.
Ouais, et là, c'était plutôt sympa. Donc, on vous en avait parlé. Hein, c'était, ça arrive dans Java 17, si je ne dis pas de bêtises. Et la JEP 413, bah, c'est histoire d'avoir des Java docs un peu plus sympas. Et un des trucs super sympas, c'est pouvoir inclure du code. Mais pouvoir inclure du code, non pas uniquement en faisant un copier-coller de votre code dans la Java doc, mais l'inclure. Donc, on définit une balise, on dit ici c'est ma balise Toto, on met un début, une fin, et puis dans votre Java doc, vous dites affiche-moi la balise Toto. Et là, Gunnar, il est allé un peu plus loin. Parfois, c'est sympa d'avoir dans votre API un use case de cette API, comment vous l'utilisez, et ça, bah, vous pouvez l'avoir souvent dans votre classe de test. Donc là, le blog de Gunnar, c'est comment je fais un copier-coller de... Alors, il parle d'un projet Maven, hein, d'une structure Maven. Donc, quand vous avez votre API dans SRC main Java, comment faire
SRC
un copier-coller
main slash code slash... langage slash Java
slash Java. Bah, comment vous pouvez inclure ce petit snippet, hein, donc ils appellent ça des snippets de code, des petits
morceaux
de code, qui se trouvent dans votre SRC test Java. Voilà, donc il vous explique comment il configure le plugin Maven Java Doc pour pointer vers SRC test Java. Et là, vous avez une super belle API qui est votre Java Doc. Vous l'expliquez en anglais, en français, et puis vous collez ce petit bout de snippet qui vient d'SRC SRC test Java. Donc vous avez
vous collez d'ailleurs, vous faites une référence à ça.
Vous faites une référence
à cette balise, et voilà. Hop, ça va l'intégrer. Enfin, à ce fichier, cette balise.
Donc, c'est plutôt pas mal. Enfin, je crois qu'on en avait discuté à l'époque, mais lorsque vous écrivez des livres avec de l'ASCII doc ou des choses comme ça, c'est souvent ce qu'on fait. Enfin, moi, c'est ce que je fais. J'ai discuté avec Clément. Vous incluez des bouts de code qui se trouvent ailleurs, et cet ailleurs, il compile, il est testable. Donc, voilà. C'est un blog facile à lire. Et je vous le recommande si vous êtes intéressé par ça.
Cool. Alors ensuite, on a Twitter a déterré pour nous un article de 2019 sur l'espace de classe compressée.
Alors là c'est compliqué, je te le laisse. Hein. Je vais me mettre en mute et puis je mange pendant ce temps.
Ça marche. Donc, je sais pas si vous savez, mais la JVM, elle est en 64 bits depuis un certain temps, Et qui dit 64 bits dit que la finalement la taille des pointeurs, parce que sur 64 bits on peut adresser plus que je sais plus combien de gigas de mémoire, plus que 60 c'est quoi, plus que 32 gigs ou un truc comme ça, non c'est ça, ouais, je suis en train de dire une bêtise, mais en tout cas voilà. Et pour pouvoir pointer vers les objets dans tout cet énorme espace de 32 gigas, eh bien il faut des pointeurs sur 64 bits. Mais les pointeurs sur 64 bits, bah, ça prend deux fois plus d'espace que les pointeurs sur 32 bits. Et puis on avait déjà parlé il y a longtemps que en final, la taille des métadonnées d'une classe par rapport à nos données effectives, eh ben c'est assez gros. Et notamment, bah du coup, quand on dit chaque pointeur est deux fois plus gros, bah ça augmente encore la taille, la distance entre guillemets, enfin la proportion en fait entre les métadonnées par rapport aux données effectives. Donc c'est pas cool, surtout quand on n'utilise pas la JVM au-delà de ces 32 gigas. Et donc, ce qu'ont fait les concepteurs de la JVM, c'est d'introduire la notion de compressed object space, je crois que ça s'appelle comme ça, ouais. Où, en fait, quand la JVM, elle sait qu'elle peut faire des pointeurs, pas sur 64 bits, mais sur plus petit, parce que la taille mémoire maximum, elle est réduite, ils le font. Et il y a un sous-ensemble de ce truc-là qui s'appelle le Compress Class Space. Et l'idée, c'est pareil, le pointeur vers la structure qui définit la classe. En fait, il y a un objet qui représente l'instance que vous avez, qui va stocker vos data, et puis un certain nombre de metadata, notamment est-ce que j'ai été vu récemment par le garbage collector, ce genre de truc. Et il y a un pointeur vers une structure qui s'appelle classe avec un K, qui correspond à la structure objet de la classe elle-même, en fait. Donc, quand le class loader il dit je charge une classe et elle est disponible dans la JVM, ça crée cette fameuse structure classe. Et pour optimiser justement ces tailles de pointeurs, une solution, c'est de dire ma taille va pas faire plus que ces fameux 32 gigas, mais plus petit. Et pour garantir ça, même si on a une grosse JVM, il faut faire de l'allocation contiguë plutôt de la mémoire. Donc on fait une préallocation du bloc qu'on veut utiliser. Et vogue la galère. Parce que si on fait pas ça, à un moment, on va peut-être mettre une partie de la classe au début de la mémoire, une partie de la classe vers la fin. Et du coup, cette capacité à réduire la taille du pointeur, parce que on fait entre la distance finalement entre le premier objet et le dernier est trop grande par rapport à un pointeur en 32 bits, on se trouve coincé. Donc c'est ce qu'ils ont fait. Donc ils ont cette notion d'objet compressé et de class space, de compress class space aussi compressé, enfin, comme son nom l'indique. Et techniquement, ça pourrait faire 32 gigas, comme j'en ai parlé, mais en fait, en pratique, par défaut, c'est 1 giga. Donc, quand vous démarrez la JVM, par défaut, c'est 1 giga, quand vous utilisez ces options-là. Et maximum, c'est 3 gigas, pour une raison que l'auteur de l'article ne connaissait pas. Et en fait, ça correspond, c'est pas physiquement alloué, mais c'est une mémoire virtuelle allouée. Donc, elle dit, voilà, je vais réserver un espace contigu de temps de mémoire. Et après, c'est à l'OS de gérer un peu les détails de ça. En pratique, pour info, un objet classe, KLA2S, il fait à peu près 1K en termes de taille. Ce qui fait qu'on peut quand même, avec 1 giga, on peut quand même, en gros, avoir 1 million de classes différentes. Alors on se dit ma classe plus les frameworks ça fait pas un million de classes, mais attention, c'est par class loader, parce qu'un class loader qui charge une deuxième classe c'est pas forcément la même structure classe, donc c'est pareil, mais il y a quand même largement de quoi venir. Mais pour les gens qui sont un peu dans des cas un peu pathologiques de création de classe à outrance, eh bien vous pouvez aller customiser cette taille là qui par défaut est de 20 gigas. Voilà, et ça ne fonctionne que quand on utilise les fameuses compressed OOPS. Alors c'est, je ne sais plus ce que ça veut dire exactement, mais c'est object.
Le P, c'est pointers.
Pointer space. J'y arrive.
Compressed object pointers. Compressed OOPS.
Et pourquoi deux O alors?
Pour faire OOPS.
Ah, compressed ordinary object pointer.
Ah ben ils ont oublié le ordinary sur l'article. Voilà.
Voilà, donc c'est quand vous activez les compressed object pointers et que quand la taille de la heap Java est inférieure à 32 gigas max. Parce qu'en fait, la heap fait 32 gigas. Du coup, vous pouvez avoir des pointeurs d'objets compressés. Mais c'est un truc que je viens de réaliser là. Donc, vous pouvez avoir 32 gigas. Mais par contre, la JVM, son process, ce qu'on voit, le resident set size, ça peut être plus, ça va être plus que 32 parce que la JVM, elle a aussi ses métadonnées. Et les fameux objets classes, ça fait partie de la métadonnée. Ça fait pas partie de votre heap de la classe Java. C'est pour ça que, en gros, c'est pas 32 gigas de, voilà, de consommation totale de la JVM et 32 gigas de heap et max 32 gigas de compress class space, etc., etc. Et le process, lui, utilise du coup après les appels relatifs, genre adresse du premier objet, c'est 352, et puis après, ce qu'on stocke en tant que pointeur, c'est 12, donc 352 plus 12, et ainsi de suite. Ok, je pense que je me suis bien vautré sur
la... Non, mais c'est pas mal, hein. Bravo, moi c'est je vrai? Dis bravo, ouais. Parce que quand même, en plus, c'est, t'as pas de tableau blanc, tu peux pas faire les classes et les calasses et des machins, ça, c'est, ouais. C'est pas pratique. Hein.
T'appelles ça calas, c'est beau ça.
Calas.
Pourrait mettre une petite musique derrière. Ensuite, Cryostat.
Alors, Cryostat.
À peine vu la 1.0 que la 2.0 est déjà là. Parce qu'ils ont retravaillé un peu l'API et comment les choses étaient exposées, si je me souviens bien. En tout cas, c'est
déjà un... peut-être expliquer ce que c'est, non? Cryostat.
Alors, Cryostat, qu'est-ce que c'est? Il y a un truc qui est cool dans la JVM qui s'appelle les Java Flight Recorder, qui permet d'avoir des événements bas niveau de la JVM sans avoir de surcoût élevé, enfin un surcoût très faible au niveau de la consommation CPU du système. Donc, ce qu'on peut faire, c'est on peut dire à la JVM, merci de stocker ces événements-là dans un fichier ou alors me l'envoyer sur le réseau via JMX. Et après, on peut utiliser un truc qui s'appelle JDK Mission Control qui va aller prendre ce fichier-là et puis l'ouvrir. Et puis, on peut voir plein de choses qui se passent sur la JVM et du coup, trouver les problèmes d'optimisation et les choses-là. Et l'idée, c'est pas au moment de dev ou au moment de l'analyse, mais vraiment au moment de la prod de pouvoir activer ces fameux Java Flight Recorder Events. Et les Recorder Events, pour info, maintenant, il y a une API à partir de je sais plus quelle version de Java, qui permet d'avoir nos propres événements qui sont stockés et managés par ce framework JFR. Donc, des frameworks pourraient exposer ce genre d'événements. Alors. Ça, c'est bien, mais vous avez vu, il faut stocker ça dans un fichier et puis après, il faut ouvrir le JDK Mission Control qui est une appli desktop, peut-être Swing ou quelque chose comme ça. Et puis, donc c'est pas forcément super pratique si en déploiement prod, on se met à utiliser des containers, des choses comme ça. Donc, Cryostat, c'est ce qu'il essaie de faire le pont entre cet outil JFA et la notion de déploiement dans un container. Donc, ça fournit une API sécurisée pour justement profiler et monitorer les applis Java dans les containers avec Java Flight Recorder. Donc, ce que Cryostat va faire à partir des divers labels Kubernetes, etc., c'est de dire, ah bah tiens, ce container-là, je vais pouvoir récupérer l'information, stocker ça dans un fichier qui va pouvoir être consommé par quelqu'un d'autre ou envoyé dans Grafana en termes de visualisation, ce genre de choses. Donc c'est pratique puisque ça permet en gros d'industrialiser la collection des événements, enfin des fichiers JFR et pour après les analyser quand on en a besoin. Et puis ça résout les choses, notamment la connexion JMX par défaut, elle est pas sécure du tout. Donc ça c'est aussi la chose que ça amène, c'est-à-dire que c'est Cryostat qui va aller récupérer les recordings via une interface HTTPS avec le container et voilà. Et il y a un opérateur Kubernetes qui gère justement ce cryostat et l'agrégation et la récupération des fameux fichiers. Voilà. Et donc ça c'est Cryostat 2.0. Ensuite, mais alors où va le monde?
Oui, parce que le monde Microsoft Java, il remonte à longtemps et il y a longtemps, ça se passait très très mal. Hein. Je me souviens plus du nom de leur JVM.
Il y avait Microsoft Java
Microsoft Java là où je sais plus trop
qui quoi. Qui était pas compatible avec Java et Sun et Java étaient pas contents de l'un avec l'autre.
Pas content du tout. Ouais, parce que Windows venait avec sa propre JVM. Enfin bref, et aujourd'hui, le 4 novembre 2021, Microsoft rejoint le JCP. Alors, le JCP, c'est le Java Community Process, créé début des années 2000, ou même, ouais, je crois, début des années 2000, ou fin 90 même. Et l'idée, c'était, on est tous une bande de potes, on se met autour de la table et on bosse sur des spécifications, et puis après, on les implémente. Et les bandes de potes, bah, c'est des gens comme Red Hat, mais c'est même des gens comme moi. Hein. Moi, Antonio, j'ai fait partie du JCP pendant des années. Et en fait, c'est assez facile, mais il faut signer un document où vous vendez votre âme à Sun, puis Oracle. Alors, lorsque je m'appelle Antonio, bon, mon âme, elle vaut pas cher, mais je pense que Microsoft, après tout ce qui s'était passé, parce qu'on donne l'IP à Oracle, enfin, on donne un peu tout. Et avec tous ces déboires-là, bon ben Microsoft n'était pas du tout a pas du tout joué le jeu JCP jamais. JCP, on retrouve Red Hat, IBM, Fujitsu, Tomi, enfin tout le monde, sauf eux. Et là, ben voilà, le 4 novembre, Microsoft annonce qu'il rejoint le JCP. Ça veut dire que pour rejoindre le JCP, ben vous êtes obligé de signer le JSPA, c'est ce fameux document là où vous vendez votre âme au diable. Donc Microsoft a dû le signer, moi comme tout le monde. Hein.
C'est qui est pire, les diables ou les avocats Oracle ? Je ne parle pas d'Oracle en général, mais je parle de ça.
Après, le JCP, ça faisait couler beaucoup d'encre. Il y avait énormément de spécifications qui tournaient vachement autour de Java E. Hein, donc, on s'est arrêté à la JSR 400 et quelques. Quoi, hein, donc, vous voyez, ça a beaucoup bossé autour de Java E. Bon bah depuis que Jakarta E est passé sous Eclipse, le JCP, si vous regardez les dernières spécifications encore en vie, bah c'est Java SE 13, Java SE 14, SE 15 et SE 16 et SE 17. Hein. Donc c'est juste pour dire que Microsoft rejoint le JCP à une époque où le JCP fait plus grand chose à part estampiller certaines JEP. Donc vous avez le système des JEP qui est en dehors du JCP. Tout à fait. Et puis bah vous avez la JSR 389 qui est Java SE 14, là qui est à l'intérieur du JCP et qui estampille et dit SE 14, c'est la JEP XYZ et puis voilà. Bon, je minimise pas, hein. Microsoft rejoint le JCP, c'est très très bien, mais voilà, sachez juste que le JCP, ou aujourd'hui, ça fait depuis 2019 hein, qu'il se passe pas grand chose sur le JCP, à part les versions de Java SE, et ça, pour le coup, c'est hyper important pour Microsoft, parce que vous avez suivi, on en avait parlé, hein, mais Microsoft maintenant à sa distrib de l'OpenJDK. Donc,
ouais. D'ailleurs, Windows 11 a été réécrit en Java. Donc,
Puis, il y a VS Code aussi qui est de plus en plus utilisé. Il y a VS Code 1.0 pour Java qui est sorti. Je pense qu'on en avait aussi parlé. Donc voilà, c'est vrai que dernièrement, Microsoft est à fond derrière Java. Et là, c'était une annonce de plus. Je veux pas minimiser cette annonce, hein, mais c'est. Je pense que l'annonce est plus importante d'un point de vue légal que d'un point de vue technique, et que Microsoft rejoigne le JCP, bah, ça veut dire qu'ils sont redevenus potes avec Oracle, et c'est très très bien.
Ok. Un autre truc, donc on a parlé qu'effectivement ce VS Code est sorti en 1.0, collaboration Microsoft Red Hat et d'autres autour de ça. Donc là, ça montre, en fait, ils listaient un peu dans ce blog tous les efforts d'investissement qu'ils font autour de Java. Et un autre, c'est qu'ils ont fait un commentaire sur la proposition de Mark Reynolds et d'Oracle, du coup, autour de OpenJDK, de passer en long-term support, non pas tous les 3 ans, mais tous les 2 ans, tout en supportant pendant la vie d'un long-term support plus 1 an. C'est-à-dire, du coup, tous les 3 ans, enfin, il y a un support, enfin en tout cas des bug fixes qui sont fournis pendant 3 ans. Et donc Microsoft dit on est ok pour passer le LTS à tous les 2 ans parce que bon bah ça donne des nouveautés plus rapidement. Et puis, ça va aider à supporter ces... Et ils vont aider à supporter ces releases plus fréquentes, et notamment ben, qui fait le support LTS. Est-ce que c'est Oracle? Est-ce que c'est d'autres sociétés? Voilà, donc je pense qu'ils disent c'est leur intention de participer à ça. Ce qui, moi, on en avait parlé, je sais plus quel épisode, mais ce qu'on a, le concern qu'on avait, que certains d'entre nous, en tout cas, avaient ici dans les casse-coders, c'est, oui, mais les librairies, lesquelles elles supportent quand ils commencent à casser des morceaux de Java un peu à droite, à gauche. Juste pour info, Java 11, ça arrivait sur Microsoft Azure assez tard, en fait, hein, au niveau des lambda, par exemple. Donc, c'est facile d'écrire un paragraphe dans un blog, et après il y a des conséquences. Enfin, je voulais pas dire ça méchamment, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des impacts qui ont des longues ramifications, en fait. Et en parlant de ça, on va passer aux librairies.
Yes.
On va, si tu veux, je le fais. Donc, Micronautes 3.1 est sorti avec le support des applications utilisant le JDK 17. Donc, ils supportent encore les anciens JDK, mais quand vous utilisez leur générateur, vous pouvez générer des applications qui disent JDK 17 au niveau de Maven ou Gradle ou ce que vous utilisez. Non, pas Gradle parce que ça supporte pas encore. Enfin, je crois qu'il y avait des petits soucis autour de Gradle, mais bon, bref. Ils ont amélioré l'injection de dépendance, notamment rajouté un truc qui s'appelle le Repeatable Scope, les Primitive Beans, c'est-à-dire de pouvoir injecter des valeurs, pas des objets, c'est-à-dire des int ou des choses comme ça. Donc là, on voit que ça rattrape un peu CDI, en fait, dans les fonctionnalités, je trouve.
Il y a même une annotation Inject Scope qui va forcer le scope du bean injecté. J'ai pas trop compris l'intérêt, j'ai pas trop regardé.
Ah,
bah mais
tu peux peut-être le faire dynamiquement, parce que si ton inject scope il injecte et que c'est un producteur méthode qui le génère, tu peux peut-être jouer
sur les différents scopes
bon ouais. Les classes générées sont plus petites et du coup aident à l'amélioration de en consommation mémoire, notamment sous GraalVM, parce qu'en fait il génère beaucoup de choses au moment de la notation de processing, en fait, Micronautes. C'est leur façon d'optimiser plein de choses avant le runtime. Voilà, ils supportent les routes HTTP par regexp, genre tout ce qui ressemble à cette expression régulière va utiliser tel contrôleur. Ils ont introduit la notion de binding de port aléatoire, notamment pour limiter le nombre de conflits de tests quand on fait tourner deux fois le même truc où que les tests tournent en parallèle. J'ai toujours été...
Chose qui existe avec Quarkus depuis fort longtemps.
Ouais, mais je me rappelle qu'on avait eu des débats sur est-ce que random c'est bien ou est-ce qu'il vaut mieux plutôt avoir un incrément systématique pour vraiment garantir que tu vas pas aller te taper sur les ports l'un autre.
Moi, sur mon livre Quarkus, j'ai des centaines et des centaines de tests. Et c'est vrai que, comme c'est très très long, je fais du test en parallèle. Et une fois sur 10, ça pète. Donc oui, je sais pas si il y a un conflit de port. En plus, je fais du test container, etc. Il y a un moment donné, et là, pour trouver pourquoi une fois sur 10, le truc il plante. Bon, bref. Ouais. Donc effectivement.
Donc faut faire tourner un Docker dans ton container. Oui. Il répond pas parce qu'il est en train de bouffer là, on te dit.
Excusez-moi, il est 13h05 et c'est vrai que ouais, je mange.
Ils ont un truc qui permet de changer le certificat LTS via une commande qui s'appelle refresh sans arrêter le serveur. Donc ça, c'est intéressant pour minimiser le downtime d'application, voire dans ce cas-là l'éliminer pour cette cause-là. Ils supportent les coroutines Kotlin dans Micronautes Data. Ils ont visiblement étendu la couverture autour de leur support qui s'approche de JPA, notamment avec la notation attribute converteur. Donc j'avoue, je sais pas trop ce qu'ils font autour de ça, si c'est généré au build time un truc qui va implémenter l'entity manager ou pas. C'est une bonne question, j'ai pas le détail. Ils ont amélioré autour de tout ce qui était Kubernetes, donc le support des informers, notamment quand on écrit en gros des applications qui parlent à Kubernetes, notamment les opérateurs. Donc, en fait, ils ont amélioré leur support avec le Kubernetes SDK. Et puis, l'intégration de cohérence cache qui sort du mode preview et qui est du coup en mode pas preview. Voilà. Donc ça, c'est Micronaut 3.1.
Et puis, on va parler... à Quarkus 2.4, comme ça, son...
si tu
avant
veux.
De parler de... Bon, bah, Quarkus 2.4 est sorti en octobre, puisque la 2.5 devrait sortir bientôt même, ouais. Semaine prochaine, je crois. Et bon, une des grandes nouveautés, c'était l'arrivée de Hibernate Reactive 1.0 final, puisque c'était pas encore, c'était en 0.9, il me semble. Donc ça, c'est la grande nouveauté. On en parlera même un petit peu après du réactif. Quarkus, il y a cet utilitaire qui s'appelle DevUI, donc c'est une console en développement. C'est assez pratique. Selon l'extension que vous rajoutez, bah vous avez une console de dev qui va vous afficher votre Swagger UI si vous avez mis OpenAPI, etc., etc. Donc c'est une console qui dynamiquement va vous aider selon les extensions que vous mettez. Et là, il y a un DevUI pour Kafka Streams qui vient d'arriver. Voilà.
Et il y a justement donc Kafka Streams, pour ceux qui savent pas, ça. En fait, quand vous avez votre code, vous pouvez générer une topologie. Donc, vous pouvez dire, quand je démarre Kafka Stream, dump ma topologie en fichier ASCII. Puis après, il y a des choses qui permettent de le voir visuellement, de représenter visuellement ce truc-là. Et c'est super utile parce que quand on fait des joins et des machins dans Kafka Stream, on se dit, ouais, c'est un peu comme une base de données. Ouais, c'est cheap, je fais join. Puis en fait, on s'aperçoit que on va aller péter la terre entière. Du coup, voir cette topologie, donc voir les nœuds et les points où il y a des grosses jointures qui font mal, c'est super utile. Et du coup, là, on le voit direct dans la DevUI. C'est ça le contexte.
Pas mal. Et sinon, un truc qui est vraiment super avec Quarkus là depuis la version 2, qui est vraiment génialissime, c'est le continuous testing. Donc vous démarrez Quarkus et il exécute les tests en continu. Donc lorsque vous changez un petit bout de code, il analyse quelle classe vous venez de changer, quel test il faut relancer, et il fait ça. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et là, ils viennent rajouter le support pour les projets multimodules. Donc imaginez, voilà, vous avez N modules Maven. Et ben vous pouvez vous mettre à la racine et vous avez le continuous testing de tous ces différents modules. Voilà.
Ouais.
Bon, ça c'était pour les bonnes nouvelles.
Attends, il y en a une de plus. Visiblement, pour ceux qui s'intéressent à AWT, pour faire des applications qui utilisent AWT, voilà, il y a un support AWT via l'extension AWT. Notamment, ils ont rajouté le support de Image Resize. Voilà, donc. Si vous faites des applis desktop avec Quarkus, il y a des petites améliorations autour de ça.
Waouh, une appli desktop avec Quarkus, j'y aurais pas pensé, tiens. Comme quoi, hop, ça sert à tout. Bon, alors ça, c'était les nouveautés et les petits frameworks qui évoluent. Puis il y a des frameworks qui évoluent moins vite, voire qui sont lâchés en plein vol, puisque Lightben, c'est la société derrière Play, derrière Lagoom, derrière Akka.
Derrière et Scala à l'époque. Ouais.
Derrière Scala, oui. A officialisé le fait que Lightben ne serait plus derrière Play Framework. Voilà. Maintenant, Play Framework va repartir à la communauté. Ils ne savent pas encore où. Ils ne savent pas encore sous quelle forme, quelle organisation. Mais voilà, sachez que si vous utilisez Play, ça risque le développement risque d'être ralenti sur les mois à venir, le temps que Play retrouve une communauté et surtout une fondation pour supporter le framework. Et puis, comme une annonce arrive pas seule, là c'était moins officiel. Enfin, il n'y a pas eu un blog officiel. C'est sur une mailing list, hein, je crois. Mais en gros, Lightben est aussi en train de laisser tomber la gomme, puisqu'il y a quelqu'un qui a dit écoutez, là, la gomme, il n'y a plus de mise à jour depuis longtemps. Vous en êtes où? Et là, clairement, un gars de Lightben a répondu en disant En fait, on est concentré sur AK et Play Framework et la gomme, on va les laisser de côté. Voilà, moi j'étais assez surpris parce que je me souviens, il y a quelques années, ils étaient à fond derrière la gomme, il y a 3-4 ans là. Et puis, bon, ça a rapidement fait un flop en fait.
Ouais. T'as pas utilisé mon super jeu de mots, hein. La gomme effacée par AK Platform.
Oh, pas mal.
Non, ce qu'il dit, c'est que, eh bien, ils étaient dans l'objectif de construire, enfin, d'aider les gens à construire des systèmes réactifs, et que, du coup, voilà, AK était là pour ça, Play Framework était là pour écrire des applications, et puis, bah, les choses ont évolué, des frameworks ont rattrapé un peu, et que ils veulent se concentrer sur le cloud et les systèmes distribués, et que du coup, ils se concentrent sur AK, non seulement le framework, mais aussi leur produit qui s'appelle AK Platform, et du coup, AK Serverless, qui est leur version as a service, j'ai envie de dire. Et que la gomme, en fait, c'était un peu un précurseur de ça, mais que inhérent dans le framework, il y avait un peu trop de contraintes qui le limitaient, et du coup, finalement, AK Platform et Serverless sont plus flexibles là-dessus. Après, les clients Lightband sont encore supportés sur la gomme, mais faut pas attendre de nouvelles fonctionnalités, en gros. Voilà. Et un truc sur Play qui était intéressant, ils disent, voilà, on fera la communauté, mais il y aura besoin de sponsors et de contributeurs. Donc, c'est intéressant de se dire, on peut pas faire comme Debian. En fait, tu vois, derrière cette phrase, on dit, les communautés où il n'y a pas quelqu'un qui met du pognon, au-delà des contributeurs, eh ben, ça marchera pas. Et du coup, ils disent, il faudra des sponsors et des contributeurs, en gros, avant qu'on lâche dans cette, peu importe ce que ça sera, mettons une fondation, le bébé.
Alors aujourd'hui, quand même, quand tu vois des plateformes comme Open Collective, c'est assez bluffant, quoi. N'importe quelle boîte, n'importe quel individu peut mettre 10 dollars ou 10 000 dollars. Donc je pense que c'est aussi plus simple aujourd'hui pour financer.
N'importe quel individu peut pas mettre 10 000 dollars quand même.
Non.
C'est beaucoup. Hein.
Mais certains. Allô Elon Musk.
Ah merde, c'était pas 10 milliards que tu voulais, merde.
Ah, ouais. Ah je crois que c'était 10 000 bitcoins. Donc voilà, bon, on va suivre. Même ouais. Si moi j'avais juste fait Mimuse avec Play 1 et puis après Play 2, c'était en ce cas-là, j'ai pas du tout, j'ai pas du tout suivi. C'est toujours un petit peu un coup qui peut être bénéfique, hein, selon moi, si la communauté et les contributeurs prennent ça, mais bon, c'est toujours un peu un coup dur lorsque une boîte lâche un truc comme ça.
Ouais. Alors, on va passer à l'infrastructure. Et on a parlé de Docker qui allait devenir payant selon des critères de financier ou de taille de boîte, Docker Desktop, je veux dire. À partir du 1er janvier, à partir de septembre, mais avec une tolérance jusqu'au 1er janvier. Et du coup, y a des gens qui disaient, c'est quoi les alternatives, et donc il y en a une qui est autour de Podman. Mais Podman, c'est faire tourner sous macOS notamment, c'était pas très facile, voire pas possible. Et donc là, il y a eu pas mal d'efforts autour visiblement de Podman Machine, qui est pour les anciens qui se rapprochent de Docker Machine en fait. Et donc qu'est-ce que c'est? Ça utilise la virtualisation du Mac en utilisant le framework QEMU. Et donc ça met en place une JVM légère dans laquelle en gros les pods vont tourner et vont faire tourner le. Alors il n'y a pas de démon de Podman, c'est un peu la différence entre Podman et Docker, mais va pouvoir faire tourner les pods. Et du coup, Podman Machine, ça installe une JVM Linux plus tous les outils qui vont bien, le Podman, le Builda, parce qu'en fait Podman a l'approche unique, au lieu d'avoir Docker qui fait tout, il y a Builda pour builder vos images, Podman pour les faire tourner, etc. Donc ça fonctionne aussi sous Linux pour ceux qui soit une distribution qui supporte pas Podman ou alors pour sandboxer vos déploiements. Et ça fonctionne sous M1, donc le nouvel puce Apple Silicon qui n'est pas un x86. Donc en fait il faut un patch QEMU, mais en gros avec un brew install qui va bien, ça a l'air de bien fonctionner. Et puis Ouais, alors faudrait que vous retrouviez vous-même, mais si vous allez sur YouTube.
Je viens de le trouver, je rajoute le lien.
D'accord, top.
Ça s'appelle Les phoques au secours des baleines, à la découverte de Podman.
Podman, c'est un phoque, son effigie. Donc en fait, il y avait une belle présentation à Devox France, dont j'ai oublié le nom de l'auteur.
Benjamin Vouillaume.
Voilà, et du coup, ça vous permet d'aller un peu plus en détail sur la différence entre Podman et Docker, les pros, les contres, voilà, ce genre de choses. Donc je crois que c'était un hands-on, donc ça devait être une demi-heure.
En tout cas, l'article, lui, il balance quelques petits pics à Docker. Hein. L'article est bien écrit, mais il n'hésite pas à se lâcher un petit peu de temps en temps. Là, ils envoient quelques pics à Docker, j'ai trouvé ça...
Ouais, après,
un peu acide, mais bon, voilà.
C'est qui l'a écrit? C'est Podman.
Ah oui, c'est un article Podman. Hein,
Waltrud, c'est Dan Welch, ouais, c'est Monsieur Linux.
Dan Welch, ouais. Voilà, je viens de vous rajouter
c'est
le
plusieurs.
Lien.
Waltrud, c'est... Non, je dis des bêtises, c'est pas Dan Welch qui a écrit. Ok, on va passer
au cloud.
Au cloud. Avec, bon, tu parlais des petites piques, donc là c'est plutôt un gros pieu.
Là c'est un gros pic, ouais.
Amazon dit, voilà, il y a des bases de données propriétaires pénibles. Du coup, on a fait un truc qui s'appelle un
Babelfish.
Codeur de protocole entre le protocole TSQL, enfin le protocole de MS SQL, la variante SQL qui s'appelle TSQL de chez Microsoft et converti ça en protocole Postgres avec le langage SQL tel qu'il est supporté par Postgres. Et donc ça, ils mettent ça devant Aurora, qui est leur support de Postgres en massivement distribué, etc., etc. Et donc en gros, vous pouvez bouger vos données et faire la et sans avoir à changer votre application qui s'appuyait avant sur MS SQL Server pour aller taper dans la base de données, va taper vers Aurora, mais croyant qu'elle parle à une base de données SQL Server, MS SQL Server. Alors, tout n'est pas open sourcé encore, mais ils veulent aussi l'open sourcer. Donc, il y a un début d'open sourcing qui est disponible. Et j'adore Amazon qui dit, oui, c'est technologie propriétaire. Donc, nous, on veut faire de l'open source. On a un peu oublié de dire qu'Aurora, c'est pas exactement ouvert non plus. Même si derrière, ça supporte ce que Postgres pense. Donc là, c'est en gros, c'est le protocole qui est ouvert et le dialecte qui est commun puisque c'est Postgres, mais ce qu'il y a derrière, c'est voilà. Bon, bref. Bon,
alors, j'ai beaucoup aimé le terme Babelfish parce que bien sûr ça vient de H2G2, mais ouais, comme tout le monde l'utilise, je sais pas si vous vous en souvenez, mais il y avait Yahoo qui avait fait un Babelfish à l'époque, et c'était un utilitaire qui vous traduisait d'une langue à l'autre, et donc ils avaient appelé ça Babelfish, donc pour celles et ceux qui ont lu The Hitchhiker's Guide.
C'était l'équivalent Google Translate.
Voilà, c'était le Google Translate de H2G2. Voilà.
Alors, on va passer au web.
Oups.
Et on va utiliser notre expert résident, c'est-à-dire toi, parce que voilà. Et donc, petit article sur le Corse.
Alors, c'est pas un petit article, c'est un article très très long, mais super bien expliqué. Mm-hmm. Donc là, je vous conseille de vous poser et vous manger des pop-corn pendant que vous lisez. En tout cas, l'article est très très bien parce que les Corses, c'est un peu mythique. Là, il le démystifie un peu, mais vous voyez que quand même, c'est pas facile du tout. Hein, donc, si c'est mystique pour les développeurs, on comprend pourquoi. Donc, l'article est long, mais il est bien parce qu'il vous explique déjà d'où ça vient. Alors en fait, il vous explique le web avant les cores. Et donc il vous dit, bah à l'époque c'était la fête. Vous aviez une page web, vous preniez une image que vous récupériez à gauche, un bout de JS que vous récupériez à droite. Et donc en fait, il a même ressorti une phrase de la mailing list. En 1993, il y a un certain Marc Andreessen qui dit « J'ai une super idée. Et si on crée la balise image et on pourrait lui donner une URL. » Voilà. Et donc tout part de là et on se met à embedder des images qui viennent de serveurs différents. On fait pareil pour les iframes. Donc ça c'est intéressant, la vidéo, l'audio. Et donc c'est un peu la fête où les pages web vont choper des ressources à l'extérieur. Et comme on est dans le monde des bisounours, c'est superbe. À part qu'à un moment donné, il y a des grosses failles. Alors entre autres, ils citent Mozilla qui, à force de mettre des iframes partout et puis aller choper du contenu partout, il y avait des hackers hyper malins qui se disaient moi c'est superbe, vu que vous êtes sur la iframe de votre compte bancaire, moi j'ai une iframe à côté, c'est ma iframe à moi avec mon JS à moi qui va voir ce qu'il y a dans ta iframe où tu consultes ton compte bancaire. Donc Mozilla en 95 fait du Corse, mais uniquement pour iframe. Donc il fait du iframe cross origin, c'est-à-dire que avec Netscape 2, on peut avoir des iframes qui viennent uniquement des mêmes origines. Voilà. Donc il relate. L'article est très très long, mais c'est vrai qu'il explique le monde du web sans Corse. Pourquoi petit à petit on a mis des cores, et en fait il explique où on en est aujourd'hui. Et c'est vrai que c'est pas si facile que ça. Il vous donne même un exemple d'HTML où on embed un pauvre script JS et il dit là en fait on fait une requête avec cores et là sans. Et là vous dites punaise, pourquoi? Donc il vous dit que même aujourd'hui Cores, c'est pas si facile que ça. Il y a des cas où on pense que ça passe par Cores et puis non. Il vous dit que le fameux header access control là ou origine, mettre une étoile, pourquoi pas. Si vous avez du code statique qui n'y a pas de données, pourquoi pas. Mais après, il vous dit par contre, ne mettez pas une étoile dans tel et tel cas. Et il parle aussi des cookies, les cores avec les cookies, et puis alors il vous dit pas à la fin quelles sont les meilleures pratiques, hormis le, alors attention à pas mettre une étoile, mais il vous explique pourquoi c'est vraiment complexe les cores et comment on peut facilement se faire avoir. J'ai même vu qu'il y avait il y avait un attribut en fait HTML que je ne connaissais pas qui s'appelle cross origin mais qui fait pas vraiment ce qu'on veut. Il vous donne quelques exemples comme ça. L'article est assez long, mais si vous voulez en savoir plus sur les cores, je vous le conseille.
Ma question c'est: quand on est développeur web, qu'on utilise un framework, est-ce qu'il faut quand même connaître tout ça là? Parce que c'est long, quoi. Il faut, quand on est développeur web occasionnel, s'il faut se relire ça chaque semaine où on fait du web, c'est chaud, quoi.
Alors il vous donne quelques techniques. Enfin, je vous parlais de, moi c'est quelques balises HTML comme Cross Origin, où il vous donne aussi l'exemple, il passe par un module JS et pas un module JS. Il parle du preload aussi. Mais c'est vrai qu'à la fin, il vous dit quand même, à un moment donné, il faut aussi s'appuyer sur l'infra. C'est-à-dire que le développeur, oui, il va pouvoir mettre un access control à là, donc étoile. mais laisser l'infra être un peu plus exigeante sur qu'est-ce qu'on laisse passer, qu'est-ce qu'on laisse pas passer. Donc c'est toujours un peu pareil, hein. Si vous demandez aux développeurs et développeuses d'être bons en Java, en HTML, en réseau ou en sécurité, en cores et machin, en base de données, ça commence à devenir un peu compliqué. Donc là, c'est vraiment voilà comment cores fonctionne, voilà les cas hyper tordu où en fait il faut faire gaffe, mais il y a votre infra et on l'espère, ils sont meilleurs que vous.
D'accord.
Votre infra réseau.
Alors toujours pour le web, on va parler de 100 bytes.
Wow, j'ai adoré ce
de
blog.
Rendre une page HTML correcte.
Ouais.
Donc je sais pas qui encore a fait du HTML en ouvrant le HTML, en mettant quelque chose et en l'affichant. Là, vous allez voir que ça vous rappelle, c'est curieux. Ça espace sur toute la longueur du navigateur, c'est pas très beau, etc., etc. Et donc là, c'est 100 lignes, 100 caractères, donc c'est 7 lignes, je crois, qui dit, voilà, on va mettre maximum 70 caractères par ligne, parce que c'est ça qui est facilement lisible, et en fait, votre navigation des yeux vous permet de passer à ça. On va mettre un petit espace entre les... à gauche, à droite, en haut, en bas, parce que si jamais vous réduisez à une ligne... à une largeur qui est en dessous de ces fameux 70 caractères. On va centrer. On va mettre une ligne, un peu d'espace entre les lignes parce que c'est plus lisible. Et puis, on met une fonte un peu plus grosse parce qu'en ce moment, on a tendance à afficher un peu gros par rapport à ce que les navigateurs font par défaut. Donc ça, c'est 100 lignes. Et puis, tout à la fin, il explique comment on peut surcharger, en gros, le CSS d'une page avec avec certains outils. Et puis, si vous êtes pas, cheap, vous pouvez rajouter 100 caractères de plus. Et là, c'est encore plus beau avec des trucs du genre,
H1, H2, H3, on redéfinit les H1, H2.
Un peu plus d'espace entre les paragraphes.
Les paragraphes. Et c'est vrai que j'ai lu ce truc, je me suis dit, mais c'est ça que je dois faire, en fait, vu que j'ai rien compris à CSS. Là, en 100 caractères, bim, t'as une super belle page.
Exactement, bim. Et ce qu'il montre aussi, c'est qu'il explique chaque ligne. Du coup, c'est pour ça que je peux vous en parler. C'est qu'il explique chaque ligne et il dit, voilà, ça fait ça. Et du coup, c'est aussi didactique. Et là, pour le coup, ça prend 3 minutes. C'est contrairement aux courses, on se laisse les rappeler.
Voilà, ils utilisent que le MacWiz, le padding, le margin, le line 8 et le font size. Et c'est vrai que c'est sympa. Ouais, yes. Moi, je dis bravo.
Voilà. Ensuite, on va passer à la donnée avec Elastic 8.0 qui va imposer Java 17 pour tourner. Donc Elasticsearch 8.0, donc c'est un serveur et qui fait tourner avec Java 17 et plus, sachant que depuis un certain nombre de versions d'Elasticsearch, le fait de pouvoir embarquer Elasticsearch, le serveur au sein de votre application Java était plus vraiment supporté de toute façon. Et du coup, c'est plus facile d'imposer une version quand on est un serveur indépendant plutôt que quand on est une librairie. Mais en tout cas, voilà, leur version, ils se lancent dans Java 17 Plus, qui leur permet de faire certaines optimisations et puis pouvoir écrire du code un peu plus moderne s'ils le souhaitent. Voilà, et puis ça vient d'un thread Twitter, et puis des gens posent des questions. Ah oui, mais quid des clients Java qui embarquait le serveur, et donc là il explique les progrès qu'ils ont fait autour de ça pour que la librairie client de Java soit différente de la librairie serveur. Voilà.
Par contre, il parle pas de la date de release. J'essaie de trouver là vite fait la date de release de la 8.0, mais j'ai pas trouvé. Bon, je sais pas si c'est quelque chose qui arrive dans quelques semaines, dans quelques mois ou dans quelques années, je sais pas.
En tout cas, la pull request a été mergée il y a 16 jours.
Ouais. Voilà. Alors justement, on en parlait tout à l'heure lorsque on disait que Quarkus 2.4 intégré Hibernate réactive 1.00. Et donc là, il y a un blog post de notre ami Sané qui explique Hibernate Reactive 1.0. Emmanuel, est-ce que tu as suivi ça ou pas?
Oui, alors déjà Hibernate Reactive, maintenant ça supporte PostgreSQL, MySQL, MariaDB, DB2, SQL Server et CockroachDB. C'est pas le poste d'annonce, c'est un poste qui dit est-ce que ça vaut le coup d'utiliser une version réactive d'Hibernate par rapport à la version classique? Parce que, et du coup c'est Sané qui explique ça, il dit bah en fait il y a des limites sur ce qu'on peut faire parce que les bases de données elles ont été designées, notamment les protocoles, pour des interactions un peu classiques. On a une connexion qui s'ouvre sur laquelle on va pouvoir démarrer une transaction, faire des choses, fermer la transaction, et après la connexion va pouvoir être réutilisée pour autre chose. Mais mélanger les opérations sur des transactions différentes, il y a peu de protocoles qui supportent ça de manière native et du coup qui permettraient d'avoir un système réactif non seulement au niveau de l'application mais aussi au niveau de la base de données en fait dans son ensemble. Donc voilà, on peut faire les choses, mais quand on utilise des constructions de plus haut niveau, voilà, on a tendance à être limité par ce fameux protocole sous-jacent qui cette limitation, elle se voyait pas trop quand on utilisait JDBC, mais elle se voit quand on essaie d'utiliser au mieux les approches non bloquantes là-dessus. Donc déjà, son algorithme de sélection réactif ou pas, c'est si votre application elle est déjà réactive au cœur, par exemple vous utilisez un framework réactif de base avec sa stack web réactive. Donc là, l'exemple, c'était Quarkus avec RestEasy réactif dedans et que votre code est réactif. Et ben là, n'hésitez pas, utilisez Hibernate réactif et là, vous allez pouvoir être non bloquant de bout en bout. Donc là, vous allez gagner en perf pour sûr. Et puis sinon, ils disent, bah après, c'est un peu d'autres questions. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont comparé les performances avec un test qui s'appelle Tech Empower, enfin, qui est un ensemble de tests, en l'occurrence, qui sont très simplissimes. Donc, c'est un peu difficile de se projeter dans des applications réalistes. Et leur angle de regard, c'est quelle est la latence pour un volume donné. Donc, pour un throughput donné, quelle est la latence plutôt que le throughput maximum. Mais en fait, quand on regarde après leur graphe, on peut se projeter là-dessus. Et du coup, il y a deux jeux sur lesquels ils ont exploré. Le premier, c'est on va faire 20 requêtes de lecture d'affilée et sur la même machine, hein, entre la même base de données, entre Hibernate classique et Hibernate réactif, et le reste qui est le même framework, on va passer de 20 000 requêtes par seconde à 35 000 requêtes par seconde pour tout ce qui est en dessous de 10 millisecondes de latence. Donc c'est intéressant. C'est intéressant en termes de gains. Après, est-ce que vous en avez besoin ou pas? Bah, justement, c'est à vous de voir. Est-ce que 20 000 requêtes par seconde, ça vous suffit ou pas? Voilà. Et l'autre exemple, c'est si, donc là, on fait 20 requêtes d'affilée, finalement, sans avoir l'état et sans s'appuyer sur l'état des requêtes d'avant. Donc, on fait 20 requêtes d'affilée et on récupère l'information. Après, on pourrait tricher en disant on va essayer de faire une requête qui ramène ces 20 informations, etc. pour voir la différence. Mais dans une application plus réaliste, on va faire une requête et en fonction du résultat de cette requête, faire d'autres requêtes, que ça soit en lecture ou en écriture. Donc en fait, le test d'après, c'est une requête plus du processing client qui après ramène du JSON, je crois. Et là-dessus, ben, il y a peu de différence. On voit que finalement, quand on fait une requête et pas mal de processing au niveau de la machine, on devait déjà être plus CPU bound que IO bound. Et du coup, il y a peu de différence. Par contre, le throughput, donc le nombre de requêtes par seconde que vous pouvez faire avant d'avoir des erreurs, tend à être meilleur. Vous pouvez aller voir l'article en lui-même. Il y a des graphes qui vous expliquent ça un petit peu mieux. Un autre truc intéressant, c'est comment Hibernate réactif il y a un an et Hibernate réactif maintenant s'est amélioré. Donc en fait, ils ont fait sur la même machine, les tests de l'ancienne version, les tests de la nouvelle version. Et ça vient, c'est pas que Hibernate réactif, c'est Vertex 4 qui est passé par là, avec les améliorations autour de Quarkus, etc. Et il y a une interview, un vidéocast avec Sané, avec Gavin King, etc. sur ce sujet. Donc si vous voulez aller creuser, il y a un lien là-dessus. On va passer à l'outillage maintenant. Tu veux le faire ou je fais ?
Atomic Jar se lance dans une offre cloud. Donc Atomic Jar, hein, c'est la boîte derrière Test Container. Et Test Container pour vos tests et votre serveur, enfin votre poste de dev, c'est assez sympa. Donc vous lancez vos tests, test container, il télécharge des tas de trucs, il démarre des tas de machins, et super, ça marche. Et en fait...
Et surtout, au niveau de vos tests, vous dites, j'ai cette dépendance à tel container, merci de le démarrer.
Voilà.
Du coup, c'est transparent pour vous de votre code.
Et l'article commence par une petite histoire où un des développeurs ou le CTO, je crois, d'Atomic Jar, il va donc test container et il va faire tourner test container sur son nouveau Macintosh avec processeur M1 et ça marche pas. Et donc il dit flûte, c'est nul. Et donc ils ont eu cette
flûte,
idée.
C'est nul, ma boîte n'a plus d'avenir.
Oui, ma boîte n'a plus d'avenir avec M1. Et donc il se dit tiens mais ça serait bien si on pouvait tourner les tests avec test container sur une autre machine. Et donc voilà, ils se sont lancés sur une offre cloud, donc Atomic Jar, hein, c'est la boîte derrière test container. Et là ils offrent une offre, ils se lancent dans une offre cloud. Alors là c'est privé, hein, c'est en bêta, il faut demander une invitation. Chose que je n'ai pas fait, je ne sais pas si tu l'as fait, Manu, mais
et non, donc mais de gens autour de Quarkus, on a eu la news un peu avant, on a pu faire des tests dessus.
Oui, puisque j'ai vu qu'il y avait une intégration. Alors, il y a, comme je vous disais tout à l'heure, Quarkus là depuis, depuis Quarkus 1.13 ou Quarkus 2.
C'était avant la 2, je crois.
Les devs services, la 1.13 ou la 1.12. Ouais, il y avait un machin, il y a un machin qui s'appelle Dev Services, et là c'est carrément génialissime. Vous dites dans une extension ou Quarkus, j'ai besoin de Kafka ou j'ai besoin de Postgre, et c'est tout ce que vous dites. C'est pas mon Postgre, il se trouve dans telle URL, voici le password, voici le user. Vous faites rien de tout ça, et Dev Services va dire tiens, on m'a défini une extension Kafka. J'utilise test container pour choper un Kafka, le configurer par défaut et l'utiliser. Donc ça c'est ce que Quarkus fait déjà depuis un bail. Et maintenant j'ai découvert ça, mais peut-être que Manu toi tu pourras en dire plus. Il y a il y aurait une intégration avec Dev Service et cette offre cloud d'Atomic Jar, si j'ai bien compris.
Ouais, donc du coup, je t'avoue que j'ai pas non plus regardé trop dans les détails, mais en gros, c'est juste, vous dites, ben non, mais je veux aller vers le cloud d'Atomic Jar, qui est une configuration autour de vos fichiers test container, là. Et puis, juste avoir changé ça fait que les dev services fonctionnent. Donc, les dev services vont pas faire l'appel local, mais ont appris à pouvoir aussi déléguer à la partie cloud. C'est pareil, il y a une vidéo qui vous montre un peu comment c'est fait. Donc, comme disait Antonio, hein, ça reste une bêta privée sur laquelle on peut demander une invitation, mais c'est intéressant. Alors, ce qu'ils expliquent eux, c'est c'est top parce que une machine locale typique, c'est 2 cores et 8 gigas de RAM. La VM de Docker que Docker utilise sur votre Mac pour faire tourner vos containers. Et du coup, quand on se met à installer pas mal de truc test container en parallèle ou de dev services en parallèle, les 8 gigas, ils peuvent peut-être être un petit peu limite quand on a fait tourner un Kafka plus une base de données plus d'autres choses, plus un keycloak par exemple, etc. Donc faut soit augmenter sa Docker machine, du coup en local prendre plus d'espace. Donc quand on a sa machine qui est pas non plus la forcément la plus puissante du monde, ça atteint sa limite. Et du coup là, on dit on va pointer vers le cloud qui a des machines beaucoup plus grosse et du coup ça va tourner plus vite. Donc quelque part le fait d'aller à distance est plus rapide à ce niveau-là. Ça peut être le cas aussi pour des intégrations continues qui sont limitées, qui peuvent pas justement faire tourner les tests containers comme ça. Donc là ils pourraient pointer vers le cloud. J'ai pas tout compris l'objectif, mais il y a des cloud ID qui font tourner des containers puisqu'en fait vous allez pointer vers une page web qui pointe vers des services et derrière il y a votre IDE qui est en back-end et on tape typiquement ça fait tourner des containers avec des language server protocol par container derrière et là il dit pour garder votre cloud ID en sizé correctement plutôt que la taille maximum pour pouvoir faire tourner les tests containers et bien là vous pouvez pointer vers les tests containers as a service et garder votre cloud ID en taille correcte. Voilà. Et du coup, il n'y a plus de problème avec M1 puisque les tests ne tournent pas, enfin, plutôt les containers ne tournent pas sur la machine, mais ils tournent en dehors de la machine. Et puis, c'est un petit binaire installé. On fait un curl accept, regarde pas ce que j'installe .com et puis, et puis ça tourne. Voilà. Bon, c'est encore en cours de développement, mais c'est vrai que c'était super intéressant et je trouve ça super bien de voir des startups qui, voilà, qui se disent, on construit sur un univers, ça marche bien. Et là, paf, Docker leur dit, ah, peut-être que maintenant vous aurez plus tout le monde qui va pouvoir installer Docker Desktop. Et là, ils disent, comment on fait? Comment on fait? Et là, paf, ils se disent, bah, hop, on se lance dans une version cloud de ce truc-là. Alors, c'était peut-être déjà dans leur carton en se disant, c'est peut-être comme ça qu'on va faire de l'argent. Mais là, il se trouve qu'ils ont réussi à accélérer et fournir une version, là, très vite avant, avant la date limite. Et donc, très belle.
De péremption de Docker.
Voilà, très belle. Ouais, on va se faire taper sur les doigts.
Oh là. En plus, c'est nos potes. Et comme on le dit, à chaque fois, les développeurs, il y a un moment donné, il faut payer pour les outils qu'on utilise.
Ouais. Voilà, donc à suivre. À suivre. Alors, méthodologie.
Méthodo.
Il y a un article de InfoQ qui nous parle des tests Canary. Les tests Canary, c'est une release Canary, c'est une release de la nouvelle version sur un littéralement c'est un Canary qui va tester. Donc c'est un de vos utilisateurs qui est pris en tant que testeur.
En tant que ça vient de l'histoire Canary que, des mines.
Voilà, quand on les mineurs quand ils allaient dans les mines, un des risques c'était
de mourir.
CO2, je crois.
Hein? Oui, c'était des gaz, oui, effectivement.
Voilà, des gaz qui, en gros, ils s'étouffaient, ils tombaient dans les pommes et paf, ils étaient morts. Et du coup, un canari, c'est plus petit, ça mord plus vite. Et du coup, littéralement, quand ils voyaient le canari qui tournait l'arme à gauche, ils
disaient oh, et puis, il y a du gaz.
Ça sent le gaz. On se casse super vite. Et puis on prendra un autre canari après.
Voilà, donc ils ont testé la qualité de l'air sur un sous-ensemble d'animaux, donc le canari à la place de l'être humain.
Ouais.
Et d'où la canary release, c'est-à-dire que, mais Google fait ça, tout le monde fait ça. C'est là où on avait parlé de GitHub Copilot. Pareil, on vous invite, donc soit c'est par invitation d'une nouvelle feature sur un sous-ensemble, soit c'est uniquement des utilisateurs dans tel pays, soit c'est des utilisateurs uniquement qui utilisent déjà telle fonctionnalité. L'idée, c'est de mettre en prod, mais pas pour tout le monde. Donc, ouais. D'où les canaries.
Et c'est différent de AB testing, parce que c'est toujours subtil, c'est différent du AB testing au sens où AB testing, on a des hypothèses et on veut tester plusieurs hypothèses et voir celle qui est plus logique. Là, c'est vraiment, on veut exposer, soit on a fait tout un retravail de refonte technologique, soit une nouvelle fonctionnalité, mais qu'on veut pas afficher à tout le monde. On veut voir un petit peu comment ça se passe, mais on veut pas le déployer pour tout le monde non plus, parce que le feature flag vous permettrait de...
Oui.
Il y a des subtilités, en fait, dans tous ces trois termes-là. En tout cas, la question de l'article, c'était... vu qu'on a des canaries, est-ce qu'on a besoin de tester?
Oui.
Tester, c'est douter. Les canaries sont là pour crever avant la masse. Donc, why not?
Et du coup, c'est pas mal parce qu'il vous donne tous les avantages, mais surtout les inconvénients.
L'avantage, c'est qu'on prend moins de temps. C'est un petit peu genre tester en prod, quoi.
Les tests, ils sont faits par d'autres gens.
Voilà. Et il dit, attention, avec un canari, il faut toujours ingénérer la possibilité de revenir en arrière, parce que si au final, on se dit, c'est pas la bonne fonctionnalité, il faut pas non plus planter les utilisateurs que vous avez utilisés en tant que canari, donc il faut pouvoir retourner en arrière, notamment au niveau du modèle de données, par exemple. Est-ce qu'on peut réduire les tests internes? Il y a peut-être un risque. Qu'est-ce qui se passe si l'utilisateur qu'on a utilisé en canari, il est vraiment pas content? On le perd. Après, l'acquisition et la rétention de clients, c'est un sujet chez les marketeurs. Allez parler à vos marketeurs, vous allez comprendre pourquoi ils se lèvent tous les matins. Des tests automatisés compréhensifs permettent de limiter le risque du canari. Et il rajoute aussi, les tests automatisés, ils vérifient ce qui a déjà été vu, mais il y a des tests exploratoires humains qui peuvent aller compléter ces tests automatiques et descendre en tests automatiques après. Donc, en gros, sa réponse, c'est non. ne remplacez pas vos tests par un canari, même si, mais plutôt que c'est une approche complémentaire. Voilà.
Tout à fait.
On va passer à la loi information et société.
Et organisation. Mais là, il y en a.
Organisation. Oui, là, loi société organisation, pardon. Tiens, je vais commencer, puis tu feras l'autre après.
En flûte.
Ben ouais. Donc, le premier, c'est. je t'ai bien eu là. Le premier, c'est le droit à décompiler pour corriger des erreurs a été confirmé par je sais pas qui, mais par l'Europe en gros.
Oui.
Donc il y a eu un, c'est passé en cour, enfin il y a eu un procès.
La Cour de justice européenne.
Ouais. Parce que il y avait une entité européenne qui avait un logiciel qui avait été développé par un tiers et puis au final ça faisait pas ce qu'ils voulaient, ils n'arrivaient pas à trouver une solution pour aller corriger les bugs, donc ils ont décompilé pour aller corriger les bugs pour qu'ils deviennent fonctionnels.
Et le tiers n'était pas content.
Et non, il dit bah non, moi c'est mes avenants. En gros. Et du coup, la Cour a confirmé ou clarifié qu'effectivement, on peut corriger, enfin, on a le droit à décompiler un code tiers pour corriger une erreur affectant le fonctionnement, y compris via la désactivation d'une fonction affectant le bon fonctionnement de l'application. Ah, c'est subtil. J'ai pas tout compris au détail du truc, mais en gros, on va peut-être péter des trucs, mais si c'est pour que ça fonctionne pour nous, sachant qu'on a déjà légalement eu le droit d'utiliser ce logiciel, puisqu'il avait déjà payé en version initiale. Donc, c'est autorisé, donc une clarification de la Cour de justice européenne oui. Autour de ça.
Ouais. Ouais.
C'est une bonne nouvelle.
Faites gaffe quand même, parce que je sais pas si ça couvre tout, tu vois, genre mon Windows, il marche pas, je décompile Windows et je le corrige. Enfin, j'ai trouvé ça hyper intéressant, parce qu'il y a cet historique de ces deux boîtes qui se crêpent un peu le chignon. L'autre a malheureusement un gros bug, et elle décompile. Mais enfin, vous imaginez si à chaque fois qu'on a un bug, on commence à décompiler et à corriger les trucs. Je sais pas si légalement, il y a quand même pas un moment où on va dire non, là, stop, t'arrêtes.
Je sais pas. Moi, à ma grande époque, ça patinait chez certains éditeurs à qui on avait déclaré des bugs et que je leur avais dit. Moi, je sais pas, mais peut-être si vous changez, peut-être que dans votre code, il y a ça et que si vous changez à ça, bah, ça corrige le bug. Mais peut-être, hein, je sais pas.
Et ils ont dit, ils ont été sympas, ils l'ont corrigé ou ils t'ont
fait. Je sais pas, parce que moi, du coup, j'ai peut-être appliqué ma version patchée en mettant ça devant le ClassPass, tu sais. Et voilà.
Mais j'ai déjà raconté cette histoire-là, mais je me souviens qu'à l'époque, on utilisait Maven 0,9 et la prod aimait pas ça, parce qu'ils voulaient que des versions finales, etc., etc. Et c'est vrai qu'on avait décompilé Maven pour mettre 1.0.0 final à la place, et la prod avait trouvé ça génial. Bon, bref.
Ouais.
Alors, un autre article intéressant. L'article, en fait, essaie de comprendre l'influence des algorithmes pour afficher une information. Alors là, ça se base sur Twitter. Pour celles et ceux qui utilisent Twitter depuis le début, Twitter, c'est assez facile. C'était first in, first out, hein, c'est-à-dire que votre timeline, les événements, ils sont classés par ordre chronologique inverse. Et si vous avez loupé la news de ce matin, bah, soit vous scrollez tout en bas, soit vous l'avez perdu. Et depuis 2016...
Et comme vous avez la peur de manquer, vous scrollez tout en bas et vous avez une vie de merde.
Et donc Twitter en 2016 a donc introduit un deuxième algorithme. Alors je ne savais pas qu'on avait le choix.
Si, parce que c'était chiant. Apparemment... Bah, tu l'as désactivé assez vite parce que tu trouvais ça pénible.
Ouais.
Mais moi, je me rappelle il y a longtemps, mais j'avais oublié, ouais, du coup.
Ouais, j'avais oublié aussi. Donc maintenant, il y a un algorithme qui va vous afficher. Donc ils appellent ça de l'amplification algorithmique, hein, c'est-à-dire que, bah, en fait, ce qui va être poussé en haut se moque totalement de l'ordre, mais ce qui on va vous pousser en haut, bah, je sais pas, ce qui est le plus retweeté, le plus liké. Un tweet d'un pote de votre pote à vous qui aurait été tweeté, reliké. Bref. Et ce qui est intéressant, c'est que cet article, alors qui est pas mal écrit par des gens de Twitter aussi, hein, c'est vachement maqué Twitter et des universités. Ils ont fait tout un travail.
C'est une recherche au sein de Twitter avec des universitaires sur le corpus Twitter.
Et hyper intéressant parce que pendant des mois, je crois 6 mois, je crois, ils ont regardé des tweets politiques dans 7 pays, Canada, France, Allemagne, Japon, Espagne, États-Unis et Grande-Bretagne, pendant 6 mois quand même, donc c'est des dizaines de millions de tweets. Et ils ont analysé, selon les deux algorithmes, soit les tweets politiques, sont classés par ordre décroissant chronologique ou par amplification, est-ce que le traitement de l'information est le même? Et le résultat est non. Le résultat est, lorsqu'on utilise les recommandations algorithmiques amplifiées, ça aura plus d'impact. Le message aura plus d'impact. Donc,
voilà, les messages politiques sont plus amplifiés que d'autres messages.
Sont plus amplifiés que d'autres. Donc on les voit plus. Ils seront en haut de votre timeline, en fait.
Ouais, c'est ça.
Et après, c'était, alors là, pas facile. Ils le comprennent pas trop encore. Mais c'est la droite les partis de droite qui ont tendance à être plus amplifiés que les partis de gauche. Ça, ils l'expliquent pas trop. Enfin, ils le disent. Donc là, c'est un article qui résume une étude qu'on vous a mis en lien. Le PDF fait 30 pages. Voilà.
Ça... En fait, l'amplification, elle est attendue parce que l'idée, c'est de vous ramener les choses qui vous intéressent le plus. Donc, le fait qu'il y ait une amplification, ça, c'est pas très choquant. Le fait qu'il y ait une amplification politique, si on estime que la politique est une partie importante, la vie de la cité est une partie importante de la vie des gens, c'est pas choquant non plus. Par contre, qu'il y ait des biais entre des parties, entre des éléments de cette vie politique corrélés au nombre d'éléments qui poussent dans la plateforme, c'est là où on se pose la question. Et c'est pour ça que cette étude, c'est pour ça qu'ils ont fait cette étude, voir s'il y a fait effectivement un biais.
Et puis effectivement, c'est très personnifié, c'est-à-dire que ce qui va sortir souvent, c'est plus la personne et pas tant le contenu politique, c'est pas tant le message ou la réforme, ça va être surtout le personnage en fait.
Par exemple, c'est pas il faut sauver le climat, c'est Éric Zemmour.
Voilà, c'est un peu ça. On a dit qu'on restait neutre.
Ouais. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, on n'en a pas parlé là, mais ils ont quand même fait très attention à essayer d'expliquer leur méthodologie là dans le grand détail, notamment qu'est-ce qu'on appelle une information politique, qu'est-ce qu'on appelle quelque chose de droite, qu'est-ce qu'on appelle un journal de droite, des news de droite, des news de gauche, qu'est-ce qu'on appelle un élu de droite, un élu de gauche. Ils s'appuyaient que sur les élus et pas sur n'importe qui. Voilà. Et du coup, et ils expliquaient, l'élu de droite, il est de cette source-là, qui est une organisation qui est là pour justement qualifier qu'est-ce qui est de droite et de gauche. Donc au moins, on a l'information totale et on voit s'il y a des biais, on pourra aller les creuser. Donc, super intéressant.
Ouais,
et bien synthétisé quand même l'article. Alors, j'ai pas été voir le PDF, je dois t'avouer.
Oui, bien pareil. Tiens, mais... Voilà, ça pose toujours question. Est-ce que un jour il faudra réguler tous ces algorithmes-là? Bref, voilà. Hyper intéressant.
Yes.
On est arrivé à la fin, là, je crois, non?
On est arrivé à la fin.
Parce qu'il n'y a pas de conf, il n'y a rien, là, en fait.
C'est parce qu'on n'a pas fait l'effort de les regarder, mais il y a toujours le DevFest Nantes du 21 et le 22 octobre, le DevFest Lille.
Mais on est le 12 novembre.
Ah ouais, non, mais je suis con, en fait. DevFest Lille le 19 novembre.
Ah, voilà. Non, parce que Strasbourg, c'était lundi dernier, donc
d'accord,
pas pareil, c'est passé. Il y avait le DevFest Strasbourg.
En fait, en vrai, si vous voulez qu'on parle de votre conf, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux de faire un crowdcast. Vous allez sur playcascadeur.com/crowdcast et au prochain épisode, on l'intègre. Et puis comme ça, c'est fait et puis on vous massacre pas votre information.
2-3 minutes sur votre conf et hop, c'est vrai que c'est pas mal.
Ou sur un sujet, si un sujet vous intéresse, allez-y.
Crowdcaster.
Ouais. SunnyTech, les 30 juin et 1er juillet 2022 à Montpellier.
Bon, attends, mais t'es à 2022. Il y aura DevOx France le 20 et 22, 20, 21 et 22 avril. Hein, attends, l'autre, j'y crois pas.
Bah, tu n'as pas fait un podcast. Donc, et en parlant de ça, du coup, ça y est, toutes les vidéos sont publiées. Et,
ah oui, 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 c'est vrai. Toutes les vidéos de DevOx France sont en ligne. On les a publiées assez rapidement, bah, parce qu'il y en avait un peu moins cette année. Donc il y a 120, je crois, il y a 120 confs, quickies, tools in action, universités qui sont en ligne. Donc voilà. Vous Top. Pouvez aller regarder le channel DevOx France.
Voilà. Eh bien super.
That's all.
Ouais, eh bien That's merci all, de nous avoir suivis. Et puis il y aura la suite de l'interview sur GraalVM qui sera l'épisode normalement d'après.
Voilà, voilà. Ouais, il faut que je me le fasse celui-là pendant que je cours, que je me fasse un petit podcast, ouais.
Et réfléchis à qui tu voudrais interviewer aussi.
Oui, ouais. Ouais. Voilà. In French, en français dans le texte. Yes.
Allez, au revoir à tous.
Mesdames et messieurs, prochaine. Bye bye.
Le thème musical est le thème numéro 3, gracieusement offert par podcastthème.com, podcastthemes.com. Le logo a été dessiné par Nicolas Martignol, alias le Touilleur Express, www.touilleur-express.fr.